Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous à l'écoute de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale pour l'avant-dernier numéro de l'année 2021, celui de la semaine de Noël. J'espère que vous allez tous profiter de ce moment privilégié des fêtes pour vous reposer, voir vos familles et vos amis, et aussi bien sûr pour aller au concert ou à l'opéra. J'accueille encore aujourd'hui dans cette émission Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Il est accompagné de Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux La Voix du Midi et Côté Toulouse. Tous les trois, nous avons le plaisir de recevoir pour la première fois à Mélomanie Pierre Régal, l'invité d'honneur de ce numéro, chorégraphe, fondateur et directeur artistique de la compagnie Dernière Minute et metteur en scène de La Flûte Enchantée. Une nouvelle production de l'opéra de Mozart est en effet l'affiche du Théâtre du Capitole. La première a eu lieu dimanche et il reste 8 représentations jusqu'au 30 décembre. Là aussi, il s'agit d'une première incursion pour Pierre Régal sur la scène lyrique. Nous allons bien sûr en parler avec lui en seconde partie d'émission. Mais tout de suite, place à l'actualité musicale récente avec notre rubrique « Retour arrière ».
Mélomanie. Retour arrière.
Ce retour arrière va être court cette semaine puisqu'il va se réduire au deuxième concert de la saison des Arts Renaissants donné mardi dernier à la Basilique de la Dorade, la superbe Basilique de la Dorade récemment rénovée et qui affichait complet près de 500 personnes assistées à cette soirée. Trois ensembles différents s'y sont produits, soit séparément, soit réunis autour d'un programme intégralement dédié à la musique baroque. Nous étions tous les trois à ce concert, Robert et Serge. Et Serge Chosy va se faire un plaisir de nous rappeler quelles formations nous avons pu entendre et quelles œuvres elles ont interprétées.
Alors, il s'agissait du deuxième concert de la saison des Arts Renaissants. Et les trois ensembles en question sont des familiers les uns avec les autres. Hein. Donc, il s'agissait de l'ensemble local que l'on connaît bien ici, les Sacboutiers, l'ensemble de cuivre ancien de Toulouse. Et puis, il y avait également... Alors, un ensemble avec lequel il y a des liens très forts, l'ensemble Clément Jeannequin, dirigé par Dominique Viss, et puis l'ensemble Café Zimmermann, du nom du fameux café dans lequel Bach allait se manifester et donner de la musique profane, l'ensemble Café Zimmermann, avec Pablo Valetti, le premier violon, et donc le directeur artistique. Et donc, les trois avaient décidé d'imaginer un programme intitulé Magnificat, tout à fait d'actualité, à l'approche de ces fêtes de fin d'année, un programme avec des compositeurs pratiquement contemporains, hein, puisqu'il y avait à la fois du Heinrich Schütz, qui est peut-être le plus connu de ceux qui étaient donnés ce soir-là, Samuel Scheidt, qui fait partie des fameux 3S avec Schein, et puis il y avait deux œuvres de Bieber, Heinrich Ignaz Franz von
Bieber. Oui, c'est pas Justine, hein, c'est un autre.
Non, c'est pas Justine, hein, pas du tout. Et puis, une œuvre assez peu connue, enfin, d'un compositeur que, pour ma part, je ne connaissais pas bien, c'est Johann Rosenmüller, qui était un contemporain de tous les autres. Donc, on a eu droit à une sorte de programme magnifiquement structuré, très bien structuré, qui alternait les pièces de joie extrême et les pièces de sensibilité, d'émotion, qui étaient jouées soit par l'un seul des trois ensembles, soit les trois ensembles, soit des combinaisons avec deux ensembles parmi les trois. Donc c'était très varié, très, très stimulant. Et surtout
ça donnait un côté aussi très dynamique, j'ai trouvé, à ce concert.
Exactement. Et puis on pouvait observer la complicité qui lie ces trois ensembles, qui est absolue.
Oui, parce que c'était très fluide. Hein. Il y avait beaucoup de changements, mais c'était à chaque fois très fluide, bien huilé.
Et ça fonctionnait très bien. L'habitude donnait ce programme, non ?
Non, pas vraiment. Ce programme, non.
Je sais qu'ils le donnaient à...
Ils l'ont donné une autre fois.
À Nice, deux jours après.
Oui, à partir de
maintenant. Mais là, c'était quasiment la première, là, pour tous les trois.
Ah oui, c'était... Ils avaient déjà donné ce programme une autre fois, il y a quelque temps, mais pas très souvent. Donc là...
Mais les trois ensembles...
Les trois ensembles, oui. Alors bon, tout ce concert très varié s'ouvrait sur une sonate de Bieber, Franz Bieber, vraiment solennelle, avec une orchestration brillante, et puis ensuite alterner donc avec notamment du même Bieber la sonate 9 à 5, donc à 5 parties du même compositeur, qui n'était jouée que par les cordes de Café Zimmermann. Et là c'était extrêmement sensible et émouvant comme idée, comme expression. Et puis alors il y a eu avec les seuls sacs-boutiers, donc les seuls cuivres, cornet à bouquin et sac-bout, donc deux cornets à bouquin et trois sac-bout. Cette canson, alors, qui est un peu leur marque de fabrique, ils la donnent très souvent dans leurs concerts, qui s'appelle Canson Super Onarbar Roland, c'est-à-dire Oh mon voisin Roland, qui est de Samuel Scheidt. Alors là, qui est d'une virtuosité incroyable, hein. Là, vraiment, c'est du travail pour les musiciens, en particulier pour les cornets à bouquin, qui ont des traits très difficiles et très précis à développer.
La musique de Scheidt était très belle. Hein.
Ah, magnifique, oui, c'était un grand compositeur. Et puis, il y avait une œuvre d'un certain Johann Michael Bach.
Ah oui, vous l'avez oublié, j'attendais que vous en parliez.
Ah non. Mais
alors, c'est un cousin.
Non, c'est le beau-père de Bach.
Ah, c'est beau-père.
Alors,
oui, c'est compliqué.
On peut se poser la question, mais comment se fait-il que le beau-père ait le même nom que le gendre?
Oui.
Eh bien, tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier que Bach avait épousé sa cousine, Maria Barbara.
Donc, il y a des liens de parenté. Oui. Mais c'est un beau-père, mais il y a quand même des liens de parenté le grand-père Bach, je crois.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Donc, c'est un peu un cousin, quand même.
Oui, un cousin deuxième degré, oui.
On en apprend des choses sur la famille
Bach. Avant d'épouser la deuxième épouse et avoir une vingtaine d'enfants avec les deux.
On va pas trop compliquer les choses.
Non, pas compliqué.
Les gens iront y regarder de plus près.
Ouais. Et puis donc, il y avait les deux pièces maîtresses en fait de ce programme. Le Magnificat de Schütz, qui date de 1665 et qui a été découvert dans un manuscrit qu'on a l'habitude d'appeler le manuscrit d'Uppsala, puisque c'est à Uppsala qu'il a été découvert. Et là, alors là, ce qui est magnifique dans cette œuvre, c'est les dialogues entre voix et instruments. On a l'impression que les instruments imitent les voix et que les voix imitent les instruments. C'est vraiment très, très beau. Et puis l'autre Magnificat, le plus rare des deux, donc Magnificat Anima Mea de ce fameux Johann Rosenmüller, qui fait partie des concertos sacrés donc de Rosenmüller. Alors lui, c'est un héritier indirect de Schein et Schütz. Et il faut savoir qu'il inspirera beaucoup Bach et Telemann. Et donc là, ce qui est frappant, c'est la succession de ces contrastes expressifs. La joie, puis la nostalgie, puis la tristesse, en fait, toute la distribution des affects au sens renaissance du terme qui est distribuée tout au long de ce magnifique Magnificat.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est la filiation justement entre tous ces compositeurs qui partent de Schütz finalement, parce que Schütz est très très important pour la musique allemande, la musique baroque allemande.
Absolument. Donc ça a été une très belle succession de pièces liées les unes aux autres. Et donc le succès a été tel que Dominique Wyss, qui est, c'est un peu la cheville ouvrière de l'ensemble, c'est lui qui dirigeait donc, et qui a proposé un bis. Alors un bis très surprenant a priori, mais quand on connaît le personnage.
Oui, parce qu'au début, je veux dire, le mot, ça ressemblait un peu à un gag quand il annonçait ça.
Ah oui. On a cru.
On s'est demandé.
On a cru.
Mais il était d'actualité quand même, le bis.
Il était d'actualité.
Mais
encore un petit peu loin de Noël tout de même.
Pas vraiment dans le style.
Ah, pas le style du concert, programme. Non.
Puisque c'était Minuit chrétien d'Adolphe Adam, composé en 1847, donc deux siècles plus tard. Mais Minuit chrétien, que Dominique Wyss avait harmonisé pour l'ensemble instruments et des voix. Donc, c'était très raffiné et très élaboré. Mais ça a déclenché un sourire général dans toute l'assistance.
Et il a dit qu'on pouvait chanter avec eux. La plupart des gens se sont abstenus quand même.
Oui, je crois. Oui,
parce que bon, chante en même temps que l'ensemble Clément Jacquin. Robert Pénavert, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette soirée et du lieu? Parce que c'était, je crois, la première fois que les Arts Renaissants donnaient un concert à la Basilique de la Dorade, qui vient d'être rénovée, qui est magnifique, vraiment
très,
magnifique.
Très belle,
et dont l'acoustique, en tout cas, nous, on était plutôt devant.
C'était
pas trop mal, mais au fond, je sais pas.
Justement, Eric, vous abordez un vrai sujet, l'acoustique. Bon, alors, le cadre est magnifique, il a été rénové pour des raisons d'inscription au patrimoine, mais voilà, ensuite reste l'acoustique. Alors nous, effectivement, tous les trois, nous étions confortablement installés, mais je ne sais pas si ça a été acoustique, ça a été le cas de tout le monde, parce que j'ai entendu quand même des réflexions.
Oui, je sais, puisque j'avais parents proches qui étaient au milieu, ouais, vers le fond, et qui m'ont dit que vraiment c'était très difficile.
Hein, très difficile.
L'acoustique brouillait complètement, le raffinement, la finesse, voilà, des, voilà, ornementations.
Voilà. Hein, et justement, dans ce répertoire-là où tout oui, est d'une précision, ah, oui, absolue, oui, oui, et là, lorsque tout, j'ai l'impression, hein, a l'air de se mélanger dans une espèce
de... Eh oui, c'est un peu
délicat. Voilà, bon, ouais, c'est un, ouais, c'est un peu difficile.
Il y a la beauté, évidemment, oui, du lieu. Je pense qu'on ne peut pas y donner n'importe quelle musique.
Non.
Il faut vraiment choisir.
Il va falloir choisir, oui.
Oui, ou alors il faut...
Les voix, en tout cas, ça doit être compliqué.
Ou alors, il faut limiter la jauge. Enfin, bon, oui, voilà, c'est autre chose. Alors, cela dit, le concert était... Bon,
très,
parlait
très
que
concert,
de ce qu'on a entendu.
Oui, oui, oui.
Et le concert était magnifique. Les interprètes et l'ensemble Jeannequin a quand même, entre autres, quelques solistes.
Ah, oui,
oui. Dominique Viss, évidemment, mais, oui, enfin, pas que lui. Il y avait un ténor et une basse en particulier.
Ah,
le,
ouais,
le ténor qui attaquait le Magnifica... là, il a fait trembler toute la basilique. C'était très, très impressionnant. La basse également. Alors,
oui,
je
ne
sais,
oui,
pas,
oui,
peut-être, j'étais évidemment, j'étais à 3 mètres de lui, mais enfin, quand, non, même.
Très beau, très, très beau.
Voilà, il y avait un respect du style, il y avait un timbre, il y avait. Voilà, c'était somptueux.
Oui, et puis bon, et ce sont, comme vous l'avez souligné, Serge Chosy, trois ensembles qui sont habitués.
Oui,
à,
ouais,
travailler, à collaborer, et, oui, bon, ça s'est senti aussi...
Et qui s'apprécie beaucoup, qui s'aime beaucoup.
Oui, parce que ça vient de loin, c'est,
ah,
une collaboration
bien, il y a une amitié
ancienne,
qui les relie. Hein.
Alors, je n'ai pas d'extrait de ce programme à vous présenter, évidemment, puisqu'il s'agissait d'une première. J'ai en revanche un extrait du CD La Lyre Amoureuse, enregistré en 2021 par les Sacboutiers avec le contre-ténor Dominique Viss. On les écoute interpréter Amanti se bramate, pièce du compositeur Luigi Rossi. Amanti se bramate, pièce de Luigi Rossi, chantée par Dominique Viss, accompagnée par les Sacboutiers, un extrait de leur CD La Lyre Amoureuse, que vous pouvez vous procurer si vous le souhaitez sur le site web de l'ensemble toulousain. Prochain concert des Arts Renaissants le 18 janvier à 20h à l'église Saint-Jérôme, avec le Banquet Céleste de Damien Guillon. Voilà donc pour cette courte mais très agréable première partie de Mélomanie. Petite pause avant notre rubrique agenda avec Serge Chosy, Robert Pénavert et Pierre Rial, notre invité d'honneur. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
Et revoici Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Ils entourent Pierre Rigal, l'invité d'honneur de ce numéro, chorégraphe, fondateur et directeur artistique de la compagnie Dernière Minute. Et donc, comme je le disais en début d'émission, metteur en scène de La Flûte Enchantée, le célèbre opéra de Mozart. À voir au Théâtre du Capitole jusqu'au 30 décembre. La séance inaugurale de cette nouvelle production a eu lieu dimanche. Il reste 8 représentations pour y assister. Alors, comme c'est la première fois que vous venez dans cette émission, Pierre Régal, on va faire un peu mieux connaissance avec vous. Vous êtes né à Moissac, on va le rappeler tout de même pour les Moissagais qui nous écoutent. Vous vivez et vous travaillez depuis longtemps à Toulouse et vous êtes aujourd'hui un chorégraphe de renommée internationale. Cela dit, vous avez un parcours plutôt singulier parce qu'avant de découvrir la danse contemporaine à l'âge de 23 ans, assez tardivement donc, vous avez suivi des études d'économie, mathématiques et de cinéma et vous avez aussi été athlète de haut niveau, parcours singulier. Je le répète, comment vous êtes venu à la danse puis à la chorégraphie ?
Alors, en effet, c'est un parcours un peu particulier. J'ai fait donc beaucoup de sport dans ma jeunesse, notamment du football, du tennis, du ski, etc. Et en effet, beaucoup d'athlétisme, qui était un peu ma spécialité, donc du 400 mètres, du 400 mètres et. Et voilà, un certain niveau en effet. Et tout simplement, comme ça arrive parfois, à l'âge de 22, 23 ans, je me suis blessé. Une blessure, un claquage musculaire en fait, qui en fait empêche de revenir au meilleur niveau par la suite. Donc ça remet en cause beaucoup de choses, mais mon appétit de mouvement et de dépenses physiques était toujours présent. Et donc, et je me commençais à m'intéresser aussi aux arts en général. Et donc du coup, assez instinctivement, naturellement, j'ai décidé de prendre un cours de danse, pas loin d'ici d'ailleurs, à Saint-Cyprien. Voilà, un cours de danse avec un chorégraphe qui s'appelle Eddy Malem. Et de suite, ça a été pour moi une sorte de déclic où j'ai senti que c'était un moyen d'expression qui pouvait être naturel pour moi. Ça a débuté comme ça.
Ça a débuté comme ça. Ça me rappelle une première phrase célèbre d'un célèbre roman. Donc, après conception, chorégraphie, mise en scène de nombreux spectacles de danse depuis 2003, parce qu'il y a eu la danse, mais chorégraphe, c'était encore un stade supérieur. Rapidement, vous êtes venu à la chorégraphie. Je veux faire mes spectacles.
En réalité, j'ai en effet commencé par être interprète avec un chorégraphe, notamment un chorégraphe suisse qui s'appelle Gilles Jobin. Et puis assez rapidement, j'avais déjà quand même 30 ans. Donc ça me paraissait être très vieux à l'époque. Et je me suis dit, bon, je vais, avant d'arrêter ma courte carrière d'interprète, je vais me faire mon propre spectacle. Donc j'ai créé un solo. Et ce solo, finalement, a eu du succès, tout simplement. Et c'est ça qui a lancé mon parcours de chorégraphe. Même si je continuais à rester aussi sur scène, et je continue toujours à rester parfois dans mes projets sur scène. Donc ça a été le moyen de devenir chorégraphe, c'était le moyen pour moi de continuer à me produire sur scène. Voilà, et puis ensuite je me suis intéressé, même en tant que chorégraphe, à des choses très différentes. J'aime bien rencontrer des gens différents de moi et des gens différents les uns des autres. Et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer des danseurs de hip-hop, ou alors des danseurs contemporains, ou alors des danseurs classiques, ou alors des acteurs que j'ai fait danser, ou des musiciens que j'ai fait danser. Et donc voilà, j'aime bien varier les plaisirs, on va dire, et les recherches. Et c'est comme ça que ça m'a amené aussi vers un peu le théâtre, un peu le cirque, et maintenant un peu l'opéra.
Vous êtes nourri de tous les arts de la scène, si on peut dire. Et donc là, avec La Flûte Enchantée, bien, vous faites vos débuts à l'opéra. La mise en scène lyrique, c'est quelque chose qui vous tentait depuis longtemps, ou c'est Christophe Gristy qui a su trouver les mots pour vous convaincre de vous y essayer ?
C'est quelque chose qui me tentait. Je l'ai évoqué plus ou moins sérieusement à Christophe Gristy, sous forme un peu de blague, mais une blague sérieuse au fond en fait. Et Christophe Gristy a rebondi là-dessus et m'a dit pourquoi pas, et m'a proposé, c'est lui qui m'a proposé La Flûte Enchantée. Donc c'était une grande surprise pour moi. J'ai pas hésité, j'ai dit oui de suite évidemment. Et voilà, c'était un grand cadeau qu'il m'a fait. Donc j'ai beaucoup travaillé à partir de ce cadeau-là. J'ai beaucoup travaillé pour honorer ce cadeau.
Mais c'est un opéra que vous connaissiez depuis longtemps, vous connaissiez bien, vous avez dû un peu vous plonger dedans.
Alors c'est un opéra en réalité que j'avais déjà vu deux mises en scène. Et en fait, c'est un opéra qu'on a l'impression de connaître un petit peu. Parce qu'évidemment, il y a des airs très connus Donc, de suite, voilà, j'avais l'impression de le connaître, mais je dis bien l'impression, parce qu'ensuite, quand on le réécoute, ben, on a quand même des surprises. Il y a des choses dont on ne se souvenait pas, des éléments dont on ne se souvenait pas, des éléments très beaux aussi. Donc, les airs connus, évidemment, on s'en rappelle, mais les airs moins connus, qui sont tout aussi beaux, eh bien, on les redécouvre. Et puis surtout, ensuite, à la lecture du livret, là on se dit qu'on ne connaissait pas très bien la pièce, parce que le livret est vraiment labyrinthique et un peu complexe. Les personnages sont complexes, c'est tout l'intérêt de la pièce, hein. Les personnages sont ambivalents. C'est là où c'est à ce moment-là vraiment qu'on découvre la pièce et qu'on s'aperçoit qu'elle est justement difficile à découvrir, difficile à comprendre. Donc voilà, c'était tout l'intérêt de ce projet, c'était de découvrir la complexité de la pièce et de donner un regard à cette complexité.
Alors Robert Pénavert, je sais que vous avez beaucoup de questions à poser à Pierre Rigal, alors je vous passe le micro tout de suite.
Oui, alors j'aimerais savoir, bon, d'abord, lorsque, en définitive, sur votre proposition de travailler au Théâtre du Capitole, Christophe Christie vous propose La Flûte Enchantée. Ça vous a pas fait peur ?
Si. si, ça m'a fait...
Ça me paraît plutôt sain.
Oui. Si, ça m'a fait peur, évidemment.
Pourquoi ?
Parce que c'est un monument. C'est vraiment... C'est un monument. Donc on est forcément impressionné par cette œuvre. On sait que c'est une pièce qui a traversé les âges, qui a eu... Peut-être c'est la pièce qui a été la plus montée, la plus mise en scène. Donc il y a une tradition de mise en scène énorme. Et donc il faut s'insérer dans ce parcours-là. Donc évidemment, oui, ça fait peur. Mais bon, il y a des moments dans la vie, il faut saisir sa chance et aller au-delà de sa peur. Et donc, malgré la peur, j'ai dit oui. Mais oui, c'est vrai que ça peut être assommant. Quand je disais justement, je redécouvre et j'analyse la pièce, oui. Là, je me suis dit, oui, c'est un labyrinthe.
Oui, je pense que ça doit faire davantage peur que mettre en scène les lisières d'amour ou des choses comme ça.
Je sais pas, c'est-à-dire que là, oui, c'est un tel monument, c'est quand j'annonçais à mes amis ou à d'autres personnes, je vais monter la Flûte Enchantée, tout le monde écarquille les yeux, évidemment, et donc oui, c'est forcément un monument. Alors la petite histoire, je jouais un de mes spectacles qui avait rien à voir, un spectacle de hip-hop, l'été suivant à Vienne et dans un festival de danse contemporaine, et donc du coup je suis allé à la recherche du théâtre de Mozart où a été créée la pièce.
Le
alors
théâtre,
il n'existe plus, mais il y a une petite plaque de l'endroit où il était dans une rue. Et puis ensuite la Flûte Enchantée a été jouée dans un autre théâtre du vivant de Schikaneder, le librettiste, et je suis donc allé dans ce théâtre et où j'ai rencontré la dramaturge de ce théâtre. Et donc je lui explique le projet, elle m'a fait visiter le théâtre où a donc été joué la Flûte Enchantée de nombreuses fois avec l'équipe d'origine, hormis Mozart qui avait disparu déjà à ce moment-là. Et donc cette dramaturge m'a dit un peu en plaisantant, bon, c'est votre première mise en scène, La Flûte Enchantée. Elle me dit, oh, vous inquiétez pas, personne n'a jamais rien compris à La Flûte Enchantée. alors j'avoue que ça m'a fait un tout petit peu peur, mais ça m'a aussi un peu rassuré.
Vous êtes tranquillisé.
Oui.
Si je me dis, si la dramaturge de ce théâtre me dit ça, c'est que bon. Ça m'a un peu rassuré.
Alors justement, pour rebondir sur cette observation assez amusante finalement, La Flûte Enchantée offre d'infinis niveaux de lecture. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Mm-hmm. Pour le metteur en scène, alors du niveau le plus ésotérique, philosophique, jusqu'au plus naïf finalement.
Exactement.
Et donc... qu'avez-vous proposé au public du Théâtre du Capitole pour un spectacle qui est très clairement un spectacle de fin d'année? D'ailleurs, le Capitole n'est pas le seul à afficher La Flûte Enchantée en fin d'année. Mm-hmm. En Allemagne, il y en a 14 théâtres qui affichent La Flûte Enchantée. Et en France, il y en a un minima 2. Il y a celui de Nancy et le Capitole et peut-être d'autres, mais que j'ignore. Alors, qu'avez-vous proposé aux spectateurs ?
Oui, quelle est votre approche de l'intrigue ? Est-ce qu'elle est complètement nouvelle ? Oui. Parce que vous avez des références, vous avez vu d'autres mises en scène, les approches des personnages principaux aussi. Oui. Vous êtes chorégraphe, on peut imaginer que vous avez peut-être mis plus de mouvement, plus de déplacement que ce qu'on peut voir habituellement. Expliquez-nous un peu ça.
Alors, en réalité, comme vous le dites, il y a plusieurs niveaux de lecture, des choses très naturelles, instinctives, naïves et enfantines, puisqu'il y a tout simplement la beauté des chants qui fonctionne dès la première écoute auprès de tout le monde et auprès notamment des enfants. Mais il y a aussi cette grande ambivalence et cette symbolique qui est exprimée dans la pièce. Donc c'est aussi une œuvre philosophique, une œuvre sérieuse et riche, et puis une œuvre qui n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer avec un spectacle de Noël, qui n'est pas forcément gay, puisqu'il y a beaucoup de tragédies.
Il y a un côté sombre.
Il y a quelque chose de très très sombre, et deux tentatives de suicide. Bon, donc ça n'est pas non plus la grande joie en permanence. Alors moi, ce que j'ai voulu avoir une approche à la fois assez ouverte pour que le public ne soit pas totalement perdu dans cette histoire, totalement perdu dans tout simplement la présentation des personnages. Il y a beaucoup de personnages et puis il faut de suite se familiariser avec eux, les connaître, connaître leurs noms pour ne pas être perdu dans l'intrigue. Je donne l'exemple de Tamino, le prince qui arrive au tout début. On évoque son nom que de nombreuses scènes plus tard. Donc les gens qui connaissent la flûte enchantée ne seront pas perdus, mais quelqu'un qui voit la flûte enchantée pour la première fois aura peut-être une difficulté à savoir de qui on parle. Tamino, qui est-ce ? En fait, c'était un personnage qu'on a vu au tout début. Donc c'est des choses assez simples que je dis là, mais qui finalement sont importantes. Et donc du coup, j'ai eu l'idée de créer un... Il y a toujours un surtitrage à l'opéra, le surtitrage des textes. Et donc là, j'ai eu l'idée de rajouter d'autres surtitres qui sont au-dessus des personnages pour tout simplement les nommer. On peut lire leur nom. Et donc, il y a un petit commentaire aussi qui est donné à chaque fois à ces personnages. Et il y a donc aussi presque des mots qui peuvent agir comme des sortes de petits résumés ou d'impressions des scènes. Et il y a aussi deux choses importantes, c'est qu'il y a deux personnages acteurs sur scène qui ne sont pas nommés pour le spectateur, mais que dans notre processus, on a appelé Mozart et Schikaneder. Schikaneder étant le librettiste de la pièce. Et donc, on voit la pièce à travers leur regard, leur regard de créateur, c'est eux qui créent la pièce. Et grâce à cette mise à distance de création, j'ai pu donc donner quelques éléments entre guillemets pédagogiques, quelques éléments aussi poétiques pour commenter les scènes et aussi quelques mises à distance. Parce que en fait, en lisant attentivement le livret et sa complexité, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses assez étonnantes. Notamment la question de la misogynie. C'est une pièce très misogyne. Et donc j'ai toujours, à la lecture du livret, j'ai toujours été gêné en me disant « mais c'est quand même étonnant, Mozart, Schikaneder, je ne le connais pas évidemment, mais c'est étonnant que Mozart développe de tels chants, et finisse par un espèce de triomphe d'un personnage, donc le personnage de Zarathustra qui est censé représenter la sagesse et qui est censé triompher. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours interrogé. Et donc, je me suis rendu compte que, en fait, Mozart et Schikaneder étaient beaucoup plus critiques que ce que l'on pouvait imaginer, que l'on pouvait voir dans des mises en scène antérieures. C'est que le personnage de Zarathustra, pour moi, selon moi, est critiqué par Mozart et Schikaneder. Il est un personnage qui est censé représenter la sagesse, mais qui tout de même, dans sa manière de développer la sagesse, il est quand même factuellement tout à fait critiquable, puisqu'il enlève une jeune fille qu'il aimerait s'attribuer à lui-même quand il voit que cet amour-là ne sera pas possible, et il va s'en servir comme outil de manigance du jeune homme Tamino. Donc il a quand même enlevé à une femme sa fille, c'est quand même pas rien. C'est un personnage qui ne veut absolument pas donner l'initiation aux femmes, donc simplement aux hommes mais pas aux femmes. Et c'est aussi un personnage qui a des esclaves quand même, qui les maltraite largement puisqu'il en punit un de 77 coups de fouet. C'est aussi, lui et ses disciples utilisent une autre femme, Papageno, comme une espèce de piège pour ce personnage très intéressant qui est Papageno, et qui une femme vieille qui se transforme en femme jeune comme récompense. Bon, donc c'est pas d'un point de vue du rapport homme-femme n'est pas très glorieux. Et donc tout ça, c'était quelque chose qui m'écorchait un peu les yeux quand je lisais les textes. Et donc et finalement, en faisant de nombreuses recherches, j'ai compris que Mozart et Schikaneder étaient très critiques vis-à-vis de la franc-maçonnerie. Ils étaient francs-maçons, mais de plus en plus détachés de la franc-maçonnerie. Ça, c'est quelque chose qui est totalement historique, et qui était certainement intéressé par les idéaux de la franc-maçonnerie, mais qui était extrêmement déçu par la mise en œuvre de ces idéaux.
L'application dans la vie réelle.
L'application dans la vie réelle et dans le fonctionnement dans les loges, et notamment de l'un des chefs de ces loges, qui s'appelait Ignace von Born. Et certains historiens considèrent que Sarastro représente ce personnage, Ignace von Born. Et donc, il y a pour eux une sorte de critique, une sorte de satire. Alors, je ne sais pas si c'est totalement vrai ce que je dis, mais en tout cas, c'est une thèse qui me plaisait beaucoup et qui m'a aidé à lire à la flûte et à créer, à donner corps et psychologie à ces personnages. Et donc, pour moi, la Reine de la Nuit est une femme qui est, traditionnellement, elle est positive dans le premier acte et très négative dans le deuxième acte. Mais pour moi, elle est positive dans le premier acte et négative dans le deuxième acte avec justification. Évidemment, elle veut se venger. Bah, je trouve qu'elle a de très bonnes raisons. Et donc, puisqu'on a enlevé sa fille, notamment, il y a d'autres raisons, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, on lui a enlevé sa fille. Et donc, cette question de l'enlèvement, on en vient un peu à la chorégraphie. Cet enlèvement qui est simplement évoqué à deux reprises dans la pièce et simplement dit par les personnages, moi j'ai voulu le mettre en scène dès le début de la pièce, dès l'ouverture. J'ai mis en scène, donc c'est là où les danseurs avec lesquels j'ai introduit sur le plateau m'ont aidé. Ils jouent l'enlèvement de Pamina. Et donc le fait de le voir, cet enlèvement, lui donne une importance plus grande et donc donne une lecture et de la Reine de la Nuit et de Sarastro différente de ce que j'ai pu voir auparavant. Et du coup, par contamination, par ricochet, les psychologies des autres personnages se répercutent. Et notamment le personnage Papageno, qui est un personnage extrêmement intéressant, qui est souvent vu comme un personnage un peu idiot. Moi, je ne le trouve pas si idiot que ça. Je trouve que, justement, il fait l'idiot. Et en faisant l'idiot, il est un peu impertinent, un petit peu rebelle, et il est le critique. Je rappelle d'ailleurs que le livrettiste Schikaneder jouait lui-même le Papageno. Oui. Et donc pour moi, c'est un personnage satirique, un personnage qui, et c'est grâce à lui que la critique...
C'est un peu un démystificateur d'une certaine manière.
Exactement, ces personnages, donc Tamino notamment, va se faire convertir dans une idéologie ou une confrérie ou une, comme on veut, une secte ou une pensée en tout cas. Et lui, il s'en méfie de cette pensée. Il le fait bien comprendre en faisant ses facéties. Et il est critique et certainement un peu, pour ma part en tout cas, je pense, à juste titre. Et du coup, tout ça par ricochet, par logique, ce personnage devient aussi l'un des gagnants de la pièce. Et donc, je ne dévoile pas la fin de la pièce pour nos spectateurs qui viendront ces jours-ci voir la pièce, mais elle se finit par, on va dire, un double triomphe. Certes, il y a celui de Sarastro, mais il y a aussi celui de Papageno.
Non, mais c'est très intéressant, la lecture que vous faites des personnages, de duplicité, de la dualité des personnages. Serge Chosy.
Ah, tout à fait. Mais il y a une réflexion qui m'a toujours choqué. C'est celle dite par... Alors, c'est Zarathustra, peut-être l'homme, un des... de ses suivants, qui dit « Une femme parle beaucoup et agit peu ».
Bien sûr, c'est Zarathustra qui dit ça. Et puis, il y a ces officiants qui en disent aussi, qui rajoutent des couches sur
le rôle d'une femme, c'est d'obéir à son mari. C'est tout. Hein,
oui, hein. Oui. Et puis, c'est déjà selon Zarathustra, elle ne peut pas être initiée. Elle ne peut pas rentrer dans la confrérie. Mais c'était des vrais sujets de l'époque. C'est-à-dire, il y a souvent une scène dans La Flûte Enchantée qui est souvent enlevée. C'est la scène des esclaves. Moi, j'ai voulu absolument, j'ai gardé toutes les scènes parce que dans beaucoup de mises en scène, il y a beaucoup de coupes. Moi, j'ai tout gardé à l'exception d'une scène assez incompréhensible mais très courte. Mais sinon, cette scène des esclaves, je l'ai gardée parce que elle raconte vraiment les niveaux de hiérarchie qu'il y a entre les esclaves, et donc le système que Zarathustra organise en fait. Et puis bien sûr, il y a ces officiants, ces prêtres qui rajoutent des choses pas très agréables sur les femmes. Donc, et je trouvais ça quand même assez fou que Mozart cautionne que ce soit le message de ce propos. Et en fait, j'ai compris que non, il ne le cautionnait pas.
Il le dénonce de
manière très subtile. Et oui, parce que c'est là où je voulais en venir, oui, sur les esclaves. Dans les loges, il y avait des débats à l'époque, et notamment le débat sur l'esclavage. C'était l'époque de la réflexion sur l'abolition aux États-Unis,
siècle des Lumières,
etc. Et il y avait aussi la question de au sein même de la franc-maçonnerie, est-ce que des domestiques peuvent être francs-maçons? Donc il y avait ce débat-là, et au sein de la franc-maçonnerie, il y avait des gens qui étaient pour et contre. Ce Ignaz von Born que j'évoquais tout à l'heure était évidemment contre, mais Schikaneder et Mozart faisaient partie des pour. Et donc du coup, voilà, il y avait vraiment un tiraillement idéologique, et surtout dans l'application, dans le fonctionnement même des loges à l'époque, il y avait des contradictions. On ne pouvait pas être universaliste et puis en même temps totalement figé dans des hiérarchies très, très cloisonnées. Donc il y avait de vrais arguments idéologiques, et donc Mozart et Schikaneder les ont distillés comme ça doucement, et notamment grâce à Papageno. Papageno est très important pour cela.
Critique de l'élite intellectuelle de l'époque, Robert Pénavert.
Oui, alors je bien sûr tout à fait d'accord avec vous. Alors, vous savez, vous avez maintenant donc des confrères metteurs en scène qui vont encore plus loin que vous concernant la réflexion sur Zarathustra, puisque l'un d'eux, dernièrement, dans un théâtre que je ne citerai pas, a transformé Zarathustra en clone Ben Laden. Donc ça déjà carrément veut dire, même si c'est un peu certainement excessif, ça veut dire plein de choses. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est qu'en fait, moi j'ai toujours considéré que La Flûte Enchantée avait une grande sœur chez Mozart. C'est l'enlèvement au sérail.
L'enlèvement, oui.
Voilà. Or, dans l'enlèvement au sérail, tous les thèmes maçonniques sont évoqués de manière beaucoup plus, pardon, mais subtile que dans La Flûte Enchantée. Ils sont un peu cachés. Sauf que, qu'est-ce qu'on découvre dans l'enlèvement au sérail? C'est que le personnage moteur qui transmet le plus de valeur, c'est Constance. Et personne d'autre.
Mais je suis pas un spécialiste de toutes les œuvres de Mozart, mais ce que j'ai quand même cru comprendre, c'est que il y a aucune trace de misogynie dans les autres pièces de Mozart. Les personnages féminins sont justement
mais bien au contraire.
Ouais. Oui,
bien au contraire.
Exactement.
Regardez le final des Noces de Figaro.
Bien sûr. Donc, tous les personnages féminins sont mis en valeur et sont moteurs. Mais d'ailleurs, quand même, dans La Flûte Enchantée, Pamina est quand même motrice aussi. C'est elle qui...
C'est elle qui conduit Tamino à
exactement.
La fin.
Et c'est quelque chose...
Suis-moi.
Voilà, exactement. Et c'est quelque chose que j'ai mis en avant dans les petits ce que j'appelle les écrans bulles, comme dans les bandes dessinées. C'est quelque chose qui est mis en avant, cet élément où Pamina, finalement guide Tamino, oui. C'est elle qui est finalement la plus courageuse.
Oui, bien sûr.
Il y a aussi deux personnages qui sont très importants, ce sont les hommes d'armes qui justement sont au pied des épreuves comme ça et qui finalement désobéissent à Zarathustra, hein, puisque normalement une femme ne doit pas être initiée selon Zarathustra. Et là, les deux hommes d'armes désobéissent. Donc, ils sont aussi assez importants, ces deux personnages.
Alors, je voudrais vous poser une question qui ne sort pas fondamentalement, évidemment, de cet entretien, mais j'aimerais savoir, le travail avec des chanteurs est-il fondamentalement différent de celui avec des danseurs ?
Oui, il est très différent. En fait, travailler avec des danseurs, en tout cas créer une pièce de danse et créer un opéra, c'est vraiment deux choses totalement différentes. Parce que lorsque je crée une pièce de danse, en fait, je n'ai rien à la base. J'ai rien. J'ai juste un sujet, je dirais, une idée, un sujet. Et ce sujet, il faut le traiter, le développer. Il faut tout inventer avec, très pragmatiquement, avec le corps.
Voilà, travail sur les corps.
Avec le corps des autres, avec des corps humains. Et donc, il y a tout à inventer. En plus, je n'utilise quasiment jamais de musique préexistante. Donc, il faut composer une musique, il faut créer un décor, créer une structure dramatique et créer des mouvements, etc. Donc, c'est vraiment partir d'une page blanche. L'opéra, c'est totalement l'inverse. La page, elle est déjà extrêmement remplie. Il y a déjà une histoire, il y a déjà des personnages, il y a déjà une dramaturgie, il y a une musique évidemment, et donc comme il y a une musique, il y a aussi une rythmique. Le travail est très différent. Je dirais qu'il y a tout dès le départ. Mais il faut, ça veut dire quoi donc créer un opéra? Ça veut dire porter un regard sur ce tout, sur ces choses-là qui existent, porter un regard et élaborer ce regard. C'est quelque chose qui ne se fait pas en 5 minutes, il faut s'imprégner, et à la fois de manière musicale et de manière littéraire, puisqu'il y a des textes. Et donc voilà, c'est donc totalement différent. Et donc ce qui est venu assez vite pour moi, c'était vraiment la question, comme l'histoire est ambiguë, c'était d'essayer de l'éclaircir au maximum. Donc j'ai de suite pensé que tous les dialogues, qui sont quand même nombreux, que j'ai voulu conserver. J'ai conservé. Ils sont écourtés, mais ils sont dans leur enjeu, dans leur contenu, ils sont tous conservés. J'ai voulu que les dialogues soient en français. Parce que pour moi, à l'opéra, c'est toujours dur de regarder et de lire en haut ce qui se passe. Et notamment dans les scènes de dialogue, c'est quasiment mission impossible. Surtout qu'il y a des dialogues qui sont très complexes. Il y a certains qui sont simples, et encore, il ne faut pas louper la rythmique. Mais il y a d'autres dialogues, comme les explications de la Reine de la Nuit sur le cercle solaire, par exemple. Quand on le lit pour la première fois, en fait, on comprend rien du tout. Donc de suite, j'ai voulu les jouer en français. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'intégrer ces deux personnages acteurs qui jouent donc le rôle de Mozart et de Schneider, donc les créateurs de la pièce, pour qu'ils jouent en français ces pièces-là. Et donc, les solistes étaient assez surpris au départ, puisqu'ils devaient jouer ces dialogues-là, non pas avec leur voix, ce qui est naturel pour eux, mais avec leur corps. Et donc c'est là où mon rôle de chorégraphe a joué. J'ai dû les convaincre. Ça a été progressif, ça n'était pas immédiat. J'ai été obligé de les convaincre que parler avec son corps était tout aussi difficile, voire plus difficile, que de parler avec sa voix. Et tout aussi pertinent, voire peut-être parfois plus. Et donc, voilà, ça a pris un certain temps pour arriver à les convaincre, mais au final, je crois qu'ils sont contents. Et cette mise en abîme-là, je crois, fonctionne, parce qu'elle donne une poétique et parfois de l'humour, parce qu'il y a des petits décalages. Et puis surtout, je pense qu'elle aide à la compréhension pour le spectateur.
Vous travaillez avec une double distribution.
Alors oui, je travaille avec une double distribution, ce qui est très difficile, parce qu'on a très peu de temps aussi à l'opéra pour monter les pièces. Donc là, en fait, ça double le temps. Et puis, je n'impose pas aux solistes de devenir des clones les uns des autres. Donc ils ont chacun leur personnalité. Donc en fait, ça revient à faire presque deux mises en scène pour s'adapter aux personnalités des uns et des autres. Voilà, je pense qu'un soliste, il est percutant et il est juste lorsqu'il il joue avec sa personnalité. Je ne peux pas les faire converger les uns vers les autres. Donc voilà, c'était deux mises en scène presque.
Voilà, mais tout ça donne envie et c'est à découvrir au Théâtre du Capitole. Nous allons réécouter un extrait de La Flûte Enchantée, cet air fameux de La Reine de la Nuit, chanté par Marlène Assayag, une des deux titulaires du rôle au Capitole. L'air de la Reine de la Nuit, interprété par Marlène Assayag, une des chanteuses à l'affiche de la nouvelle production de La Flûte Enchantée, mise en scène par Pierre Rigal au Théâtre du Capitole, à découvrir encore jusqu'au 30 décembre. Il reste des places, mais très peu, alors précipitez-vous si vous voulez assister à ce spectacle. Un grand opéra programmé au Théâtre du Capitole pour les fêtes de fin d'année, c'est une tradition à Toulouse, mais il y en a une autre, c'est celle du concert du Nouvel An donné par l'Orchestre National du Capitole à la Halle aux Grains. Depuis quelques années, trois soirées sont proposées au public, les 30 et 31 décembre à 20h et le 1er janvier à 18h. Et pour le passage de 2021 à 2022, Serge Chosy, c'est un programme russe qui a été choisi avec un chef russe, mais il ne s'agit pas de Tougen Sokiev, contrairement aux années précédentes.
En effet, il s'agit d'un chef qui est déjà venu d'ailleurs, qui est déjà venu en avril 2018 et qui s'appelle Stanislav Kochanowski. Et donc c'est un chef qui avait donné un concert que vraiment j'avais trouvé excellent en compagnie du violoniste arménien Sergei Kachatrian qui avait fait vraiment un miracle dans ce concerto numéro 1 de Shostakovich, alors que lui, le chef, avait dirigé la symphonie Manfred de Tchaïkovski, donc encore un concert de musique russe. Et donc là, il vient. Alors c'est quelqu'un qui dirige beaucoup en Russie en particulier et qui a développé des collaborations avec le théâtre Mikhailovski de Saint-Pétersbourg qui a déjà été invité à la tête de grands orchestres comme le Concertgebouw d'Amsterdam et qui est l'invité régulier du théâtre Mariinsky, donc c'est quelqu'un de grande valeur. Et donc il dirigera deux extraits des deux plus grands et des plus célèbres ballets de Tchaïkovski, Le Lac des Cygnes et Casse-Noisette. Alors avoir Casse-Noisette pour les concerts de Nouvel An, c'est un peu une tradition.
Oui, oui, bien sûr. Le ballet est souvent monté au Théâtre du Capitole. Oui, il a été ces dernières années par Kader Belarbi à plusieurs reprises, il me semble. Bon, voilà, bon, ça c'est un grand classique, c'est un peu un bonbon, hein, un bonbon de fin d'année.
Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, ces trois concerts seront dirigés par ce jeune chef russe, donc, dont on se réjouit.
Oui, alors, en parlant de bonbons, Tchaïkovski était dépressif. Russe et dépressif, ça fait beaucoup pour un seul homme. Et à la fin de sa vie, en parlant de Casse-Noisette, il se lamentait un petit peu d'avoir composé ce qu'il appelait une montagne de confiture. Qu'est-ce que vous en pensez quand il dit ça? C'est un peu vrai, mais enfin, qui n'aime pas la confiture?
Ben oui, exactement.
je dois dire qu'effectivement, bon, son de partition, La Belle au bois dormant, enfin, bon, tout ça, c'est des choses somptueuses, bien sûr, mais... Je persiste à penser, ça a été fait pour être dansé.
Et oui.
Et il faut le voir danser.
Oui.
En concert, ça, c'est peut-être là que dans Casse-Noisette, ça fait un peu ce que vous venez de dire. Hein. Bon, voilà. Mais quand c'est dansé, on n'a pas du tout cette overdose de sucre, pas du tout, parce que c'est un ballet, Casse-Noisette. On parle bien de
celui-ci. Oui, puis il y a les mises en scène aussi, voilà, les décors qui peuvent varier d'une production à l'autre.
Voilà, c'est ça. Puis il y a des atmosphères, des ambiances, des décors tellement. Puis voilà, ça fait pas trop sucré quand même quand on le voit. Alors peut-être qu'effectivement qu'à l'audition seule, c'est-à-dire ça doit venir aussi du fait qu'on le connaît par cœur.
Ah mais ça,
alors, les choses que l'on connaît par cœur au bout d'un moment, bon voilà.
Hein, ouais.
Mais quand on le voit, quand c'est monté, effectivement, vous avez raison, Kader Belarbi a fait une nouvelle production, mais bon, en même temps, il y a celle de Rudon Lovriev, il y a celle de Petit Paille, enfin, voilà. Bon, non, mais ce sont des partitions magnifiques faites pour être dansées.
Eh bien là, ce sera à l'écoute, mais bon, personnellement, je ne veux pas m'en plaindre parce que moi, j'adore cette musique. Et en parlant de danse, en voici une pour illustrer le programme du concert du Nouvel An de l'Orchestre National du Capitole, la danse des Mirlitons de Casse-Noisette, dirigée ici par Tougan Sokiev. La danse des Mirlitons de Casse-Noisette, interprétée par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Tougan Sokiev, extrait du programme du concert du Nouvel An qui sera dirigé, lui, par Stanislav Kochanowski à la Halle au Grain les 30 et 31 décembre à 20h puis le 1er janvier à 18h. Une soirée donc entièrement dédiée à Tchaïkovski et à ses ballets Le Lac des Cygnes et Casse-Noisette. Il faut vraiment y aller en famille, entre petits et grands, pour déguster cette féerie russe. Je vous invite à réserver et acheter vos places en ligne sur le site www.onct.toulouse.fr. C'est la fin de ce numéro de Mélomanie et le moment pour moi de remercier ceux qui ont grandement contribué à l'animer avec moi. Serge Chauzy et Robert Pénavert, que je ne remercierai jamais assez pour tout ce qu'ils apportent à cette émission. Merci également à Pierre Rigal d'être venu nous rendre visite. C'était une première pour lui à Mélomanie. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Je rappelle que La Flûte Enchantée, dans la nouvelle production mise en scène par Pierre Rigal, est à l'affiche du Théâtre du Capitole jusqu'au 30 décembre. Il reste 7 représentations représentations à compter de ce mercredi 22 et je vous invite à vous renseigner, à réserver et acheter vos places en ligne sur le site www.theatreducapitole.fr. Merci à Christophe Aubry d'avoir encore une fois assuré la réalisation de cette émission, dont le podcast est disponible et téléchargeable comme d'habitude dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les mardis à 19h et les mercredis à midi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de très bonnes fêtes en famille, entre amis et en musique, cela va de soi. À bientôt sur nos ondes.